dont j'aimerais partager avec vous sur « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ce passage se trouve, on va faire une première lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1er. Vous avez trouvé ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et ceux qui sont présents devant moi sont à peu près nés au 20e, 21e siècle. Et nous sommes le fruit, de notre éducation à l'école. Nous sommes l'influence aussi, le résultat de l'influence de nos amis que nous avons côtoyés, des circonstances par lesquelles nous sommes passés, les difficultés, les choses bonnes et mauvaises. Et aujourd'hui, nous interprétons les choses avec cette lumière-là, ces lunettes-là. Et par exemple, si je dois dire aujourd'hui, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Au 21e siècle, ça sonne un peu comme très éloigné et ça veut presque peut-être même rien dire. Aujourd'hui, si on parle d'un culte à rendre à Dieu, on parlerait plutôt d'œuvres méritoires, des choses qu'on pourrait faire pour mériter le paradis, pour mériter les bonnes grâces de Dieu. Si aujourd'hui, on parlerait d'un Dieu, on dirait qu'on ne veut pas de lui. Mais que s'il existait, j'ai suffisamment souffert pour mériter le paradis. On se dirait que j'ai suffisamment donné dans les œuvres charitables. Et on aurait cette conception, finalement, de pouvoir mériter ces choses-là. Et pourtant, la Bible ne nous enseigne pas cela. Et comme c'est un peu vague, j'aimerais vous l'illustrer un petit peu avec des exemples. Et j'aimerais prendre l'exemple des disciples. Moi, les disciples me parlent beaucoup parce que je me retrouve dans chacun d'entre eux, dans ceux qui sont présentés dans les évangiles. Et je trouve que la série The Chosen, pour ne pas faire de pub, représente assez bien cette relation entre les disciples et Jésus-Christ et met vraiment bien en image toutes ces choses, tout ce qui s'est passé. Et moi, je fais vraiment attention à ça. Et j'aimerais vous inviter à faire un voyage dans le temps, à peu près un peu moins de 2000 ans en arrière, et auquel mon nom serait Pierre. Pour être exact, Simon Pierre. Shalom. Je m'appelle Pierre. Et pour être exact, Simon Pierre. Fils de Jonas. Je suis marié et j'ai un frère qui s'appelle André. Je suis pêcheur de poissons de métier. Je vis de ça. Je suis un très bon pêcheur. J'ai des collaborateurs, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Je suis juif. Je connais la Torah. Je connais aussi les livres prophétiques. Je connais les hommes prophètes. J'ai toute cette culture avec moi. Je vis en Israël, mais Israël en ce temps-là est sous l'empire romain. Je suis dominé. Mais on me laisse la liberté de pouvoir pratiquer mon culte. Donc je peux me rassembler à la synagogue. Un jour, mon frère vient me parler de Jésus. Et Jésus enseigne sur la barque. Et à partir de là, je suis témoin de mon premier miracle de Jésus. J'arrive à pêcher des poissons alors que j'ai travaillé et que je n'ai rien eu. À partir de là, Jésus m'appelle moi qui suis pêcheur. Et moi qui suis un pêcheur de poissons, il m'appelle à être un pêcheur d'hommes. Pêcheur de poissons, je connais. Pêcheur d'hommes, je connais un peu moins. Mais je fais confiance en cette parole. Je marche avec Jésus. Et j'ai plein d'autres copains. André est appelé avec moi. Les fils de Zébédée sont aussi appelés avec moi. Et d'autres copains aussi. Et on est de plus en plus nombreux. On assiste à des miracles, des prodiges, des lépreux purifiés. On assiste à ce que je marche sur l'eau. Mais c'est extraordinaire. Et je veux plaire à Jésus-Christ. Et à partir de là, j'entends aussi des enseignements de la parole de Dieu. J'entends Jésus. Il parle avec une telle autorité. Mais je ne comprends pas tout. Mais un jour, Jésus me pose la question, « Qui dites-vous que je suis ?» et inspiré par le Père, inspiré par Dieu, j'arrive à lui dire, mais tu es le Christ, le Messie. Et là, Jésus me félicite. Yeah, j'ai gagné des points. Hein. Hey, vous avez vu les 11 autres là? Hey. J'ai eu la bonne réponse. Et ensuite, c'est à partir de là que Jésus commence à avoir un enseignement qui est un peu plus différent. Il parle alors de souffrance. Il parle alors de sacrifice. Et je réagis, je dis, mais je comprends pas. Non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il y a encore beaucoup moins, je comprends encore beaucoup moins, je me fais en plus reprendre par Jésus quand je lui dis ça. Alors que je cherche bien, je pensais bien faire en disant ça. C'est normal, non? J'aime Jésus, il est mon maître. Il est celui qui a accompli des prodiges et des miracles. Pourquoi me parle-t-il de souffrance? Je comprends pas. Et plus je le suis, et il continue encore à enseigner qu'il doit mourir, souffrir. Et je comprends pas. Mais n'est-il pas le libérateur? N'est-il pas celui qui doit nous sauver de l'empire romain? Celui qui, ce n'est pas celui qui, comme au temps des juges, a été sollicité pour nous sortir des différents peuples qui nous attaquaient à l'époque? Ou encore celui qui, un peu comme Moïse, nous avait sorti du peuple hébreu, du peuple égyptien? Nous, les Hébreux, faisant des prodiges et des miracles. Et là, sous nos yeux, on assiste à ça. Mais il nous dit qu'il doit souffrir. Je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi cette vérité? Alors je vais attendre et je vais assister à tout cela. Jésus meurt et je suis perdu. Je ne comprends pas pourquoi il est mort. Lui qui a su jusqu'à présent pendant 3 ans, nous avons pu échapper à tout ce qui était contre nous. Et là, il est mort. Et pourtant, il a parlé de résurrection, mais je n'ai pas compris. Voyez-vous la lecture de Pierre? Alors qu'il a rencontré Jésus-Christ, il a lu le Messie avec ce qu'il connaissait de la Torah, avec les interprétations des prophéties, mais il a lu aussi en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il comprenait et de son besoin. Il avait besoin que le peuple d'Israël soit libéré du problème présent, c'est-à-dire l'Empire romain. À côté, il y en avait d'autres, Simon le Zélote, qui pensait aussi que Jésus était un libérateur de ce type-là. Quand les gens pensaient à l'époque le roi, le Messie, le roi des Juifs, ils pensaient à quelqu'un qui allait le libérer. Et c'était fini. Enfin, nous allons être libérés de l'Empire romain. Enfin, nous allons être encore un nouveau peuple glorieux. Et ils pensaient aux choses de la terre. Et ça, c'était la compréhension de l'époque. Et ils pensaient bien faire à chaque fois. Il pensait, il était le premier à répondre, à dire, non, quand bien même les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Et pourtant, il a fauté. Il est celui qui a renié Jésus. Il a montré de l'audace, mais à la fois, il a montré aussi des faiblesses. Ne sommes-nous pas parfois comme un peu Pierre, ou des fois, nous sommes un peu audacieux, mais aussi un peu... je dirais, hâtive dans notre manière de penser, dans ce qui est bien de faire pour Dieu, pensant que c'était la bonne chose. Et c'est pour ça que ce passage nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les choses qu'on pense, nous, qui peuvent plaire à Dieu. Mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? On pense, par exemple, que comme Caïn, offrir le fruit de mon travail, de mes œuvres, serait ce qui plaît à Dieu. Et Dieu lui dit non, ce n'est pas ça que j'ai demandé. On pense parfois que donner toutes nos richesses, donner tout ce qu'on peut avoir, c'est ce qui plaît à Dieu. Un autre exemple, ce serait Paul. Alors Paul, c'est le summum. Lui, c'est une pointure, pharisien. Donc, la Torah, c'est le théologien Bac plus 8. Encore mieux. Il était étudiant de Gamaliel. Aujourd'hui, Gamaliel, au XXIe siècle, ça dit personne. Hein? Inconnu au bataillon. Gamaliel, à l'époque, c'était la pointure. C'était, on va dire, le Henri Blocher d'aujourd'hui. Mais je pense qu'aussi, Henri Blocher, ici, c'est aussi inconnu au bataillon. Un jour, vous connaîtrez. Mais c'était une pointure Gamaliel. Et Saul de Tarse a été enseigné par Gamaliel. Il est monté dans les échelons jusqu'à devenir pharisien. Et encore plus, il avait du zèle et des très bonnes convictions. On va persécuter les chrétiens. Et il y a Étienne là, un chrétien qui prêche et il dérange. Ouais, on va donner notre accord pour qu'il soit un peu lapidé. Et Saul de Tarse croyait bien faire. Jusqu'au jour où Jésus l'a percuté dans son cœur, où il a fait cette rencontre. C'est pour cela que quand on dit « ne vous conformez pas au siècle présent », aujourd'hui, si on doit parler au 21e siècle, soyons conscients des choses. Soyons conscients que les choses qu'on peut faire bien, peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Et peut-être qu'on se décourage alors des offrandes, des œuvres, des choses que l'on fait pour Dieu, mais que ce n'est pas des choses que Dieu a demandé. Et on passe à côté. Et peut-être que ce que Dieu demande, quand on parle par exemple de sacrifice vivant, on l'énumérera plus tard parce qu'en fait, je voudrais un peu le laisser un peu pour plus tard, parce qu'un texte, il se prend dans son contexte. Et j'aimerais lire la suite, tu peux l'afficher, donc verset 3. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le bien. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Je tenais à lire tout le chapitre en entier parce que finalement c'est un peu la suite de c'est quoi rendre un culte vivant, le sacrifice vivant, un culte agréable et raisonnable. Les principes de Dieu ne sont pas les principes des hommes. Et quand Jésus est venu sur la terre des hommes, il est venu avec un enseignement qui chamboulait. Et si vous voulez revoir cet enseignement, il se retrouve sur le sermon de la montagne en Matthieu 5, 6, 7. C'est un enseignement où nous on trouverait normal de dire mais il m'a fait du mal, donc je vais lui rendre l'appareil. Ou nous, humains, quand on nous fait quelque chose de bien, on rend le bien, et quand du coup on est triste, du coup, en fait, des fois, on ne fait pas preuve de compassion. Et dans tout ça, on se donne une apparence même de piété, où on dirait, moi je crois en Dieu, moi j'aime Dieu, moi je prie. Mais en fait, ma vie ne représente pas Christ, ma vie ne représente pas cette chose parce que ma vie ne représente pas les valeurs du royaume des cieux. Moi, ce qui m'intéresse, parce que dans la compréhension de mon monde actuel, du siècle présent, auquel il ne faut pas se conformer, nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est l'homme qui est au centre de nous-mêmes. Nous sommes au centre de nous-mêmes. Et même si parfois, les non-croyants, je dirais, ce n'est pas étonnant, mais nous qui croyons, quelque part, nous transportons ces choses dans notre foi. Et on se donne cette image parfois de piété, cette image de grandeur en faisant des prières, je dirais, psalmidiques, ou alors en faisant des belles paroles. Vous connaissez Tartuffe ? Vous avez étudié Tartuffe ? Et parfois, c'est un peu ça. Tartuffe, c'était celui qui, en apparence, était un bon croyant, mais qui, derrière, était un super hypocrite, très charnel. Soyons renouvelés. Comment ? Au contact de Dieu. En ne lui résistant pas. Il ne s'agit pas d'être dans le déni concernant, je vais dire, les réalités de ce monde actuel. Mais il s'agit de considérer ces choses-là, d'être conscient que cela est et que cela aussi est en nous, mais que notre désir est là de vouloir changer. Pour être exact, le verset 2, quand Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », c'est dans la continuité. Soyez continuellement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas d'un coup qu'on est ultra saint. Ce n'est pas d'un coup qu'on capte direct. Si j'ai pris l'exemple de Paul, de Pierre, et j'aurais pu en prendre bien d'autres, ils ont été percutés une première fois par l'enseignement, par l'amour de Jésus. Mais ils n'étaient pas parfaits du premier coup. Je dirais même que sur le temps qu'ils étaient sur terre, ils n'étaient pas forcément aussi parfaits encore. Mais ils tendaient vers la perfection, ils progressaient. Au fur et à mesure que Pierre marchait avec Jésus, ils progressaient de plus en plus. Et c'est bien parce que la Bible ne nous le cache pas. Il ne nous cache pas les faiblesses des hommes. C'est pour cela qu'on peut s'identifier à eux. Nous ne sommes pas parfaits, nous tendons. Soyons continuellement renouvelés. Au contact de Jésus. Ne lisons pas la parole juste pour dire que nous avons fait une œuvre, de dire que tous les jours j'ai mon culte personnel, tous les jours je lis la parole, tous les jours je prie, tous les jours j'intercède. Ce sont des choses bonnes et il faut le faire. Mais lisons la parole parce que nous recherchons Dieu, parce que nous voulons le connaître encore beaucoup plus. Au fur et à mesure du temps, les disciples qui ont été choisis par Jésus, ils cherchaient à plaire à Jésus, ce qui est une très bonne chose, mais par leur propre qualité, par le fait de bien répondre, par plein d'autres choses, mais ils cherchaient pas vraiment encore à le connaître. Il suffisait pour eux de croire qu'il était le Messie et tout était génial. Mais nous, on dit, nous qui sommes croyants, on croit que Jésus est notre Sauveur. On croit que Jésus est notre Seigneur. Mais nous ne nous arrêtons pas à là. Moi, je crois que pour vivre, il faut 3 repas par jour. Mais je le mets en pratique. Je mange. Et je prie pour que Dieu se fasse connaître plus à moi. Pourquoi ? Pour que je lui fasse confiance. Vous savez, quand on dit d'offrir nos corps comme sacrifice vivant, c'est pas évident. Et je bénis Dieu pour la liste des chants, parce que le dernier chant, « À toi nos cœurs, nos vies », on le chante, mais c'est un chant de consécration. Nous marchons à la suite de Jésus-Christ. Vous êtes déjà posé à un moment donné et à réfléchir, à compter ce que ça veut dire marcher avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde, par exemple, l'interprètent comme ça. Ils disent la religion c'est pas pour moi parce que c'est pour les vieux. Et ils ne comprennent pas en fait. Ils ont une idée très faussée du christianisme, de Jésus-Christ, de tout ça. Et en fait, ils se disent mais moi ça m'intéresse pas parce que je n'en ai pas besoin. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons vécu, parce que nous avons tous été percutés, je pense, un jour par l'amour de Jésus, au travers d'une parole, au travers d'un miracle. Mais avons-nous compté, lorsque nous sommes fait baptiser, ce que ça voulait dire de suivre Jésus-Christ ? Celui qui veut venir après moi se charge chaque jour de sa croix, renonce à lui-même et qui me suive. Quand Jésus arrivait, il n'était pas le plus aimé de tous. Parmi les foules, il y avait ceux qui le suivaient pour les bénédictions. Il y avait ceux qui le suivaient pour sa capacité orale à enseigner. Il y avait ceux qui ne l'aimaient pas parce qu'il dérangeait. Et puis, il y avait ceux qui le suivaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient le Messie et ils voulaient en savoir plus. Ils ne comprenaient pas vraiment le plan. Mais ils voulaient en savoir plus. Et offrir notre corps comme sacrifice vivant, notre être entier, notre vie, c'est quelque part notre manière de dire « Seigneur, je ne comprends pas tous les plans que tu as formés pour moi. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en le faisant, je suis en train d'exprimer ma foi. Je suis en train d'exprimer ma confiance en toi, que si je te donne ma vie, tu sauras en faire quelque chose de bien, que jamais tu ne m'abandonneras. Tu seras toujours avec moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Les choses que je pensais impossibles seront possibles avec toi. Comment je peux avoir cette confiance ? Ce que tu me demandes, c'est d'aimer ceux qui me persécutent, de prier pour ceux qui me persécutent, de pardonner ceux qui m'ont offensé, de tendre ma joue à celui qui m'a frappé. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment faire ? Ce que tu nous enseignes, c'est dur. Le mensonge, la corruption, c'est plus facile. La droiture, l'intégrité, c'est plus compliqué. Comment je peux faire dans ce monde où on met l'homme au centre, là où on met les intérêts de l'homme avant, là où on met le gain avant? Comment faire? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Dans la traduction du Semeur, il dit « à cause des bontés de Dieu ». Et je pense que lorsque nous sommes face à ces défis qui sont nos impossibilités, de réaliser en fait que Jésus, lui non plus, n'a pas été dans une situation confortable. Lui qui était égal de Dieu est descendu sur la terre des hommes. Il s'est fait chair. Il s'est donné des limitations, premièrement pour nous enseigner, deuxièmement pour nous porter cette bonne nouvelle, et troisièmement pour donner sa vie, pour que nous ayons la liberté. Il a vécu la faim, il a vécu la souffrance, le rejet et tant d'autres difficultés. Mais il avait le Père avec lui. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il avait cette confiance que le Père était avec lui. Et je prie qu'on ait vraiment... face à ces impossibilités, de dire « Seigneur, révèle-moi plus la croix. Révèle-moi plus ce que tu as accompli à la croix. Oui, je le sais. Oui, je le lis. Oui, on le chante. Mais révèle-moi plus ce qui s'est passé à la croix pour que je puisse comprendre, vraiment réaliser le prix que tu as payé afin que le sacrifice que je fais n'est rien comparé au sacrifice que toi, tu as accompli à la croix. Que ton sang, quand il a été versé, oui, tu m'as changé de destination. » Moi qui étais destiné à l'enfer, je prends une nouvelle direction, c'est-à-dire la vie éternelle avec toi, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de maladies. Donne-moi à réaliser encore beaucoup plus et à prendre conscience que lorsque tu es mort à la croix, par tes meurtrissures, je suis guéri. Que lorsque tu es mort, tu nous as donné la réconciliation avec le Père. Que ça t'a coûté, c'était un sacrifice. Je pense que si aujourd'hui on s'attache aux choses du monde, à nos limitations, à toutes ces choses que je vous ai énumérées du verset 3 au verset 21, on n'y arrivera pas. Et les disciples, au fur et à mesure du temps, après la Pentecôte, avaient compris les choses. Baptisés du Saint-Esprit, recevant le grand ordre de mission, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'était une promesse. Ils savaient que qu'importe les situations par lesquelles ils pouvaient passer, ils allaient garder au mieux l'enseignement de Jésus-Christ, son héritage. Étienne a accepté d'être lapidé. Tout le monde a accepté les persécutions. Pierre et Jacques emprisonnés. Paul a accepté d'être fouetté, lapidé et de souffrir tout ce qu'il a souffert à cause de la révélation qu'il a eue de Jésus-Christ, à cause de l'espérance qui est devant. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans l'affliction, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes face à des tentations ou des difficultés, Dieu nous demande à regarder, et lorsque nous parlons d'espérance, de voir au-delà de ça, de voir beaucoup plus loin, de voir à l'éternité. Et de ne pas considérer les gains actuels ou les choses qu'on pourrait éviter, les difficultés, mais de considérer ce qui est dans le ciel. Discerner la volonté de Dieu. Parfois, en tant que croyant, on y ajoute nos aspirations dans la volonté de Dieu. Ça vous est arrivé? Et du coup, on pense que la volonté de Dieu, c'est notre volonté. Et un jour, quelqu'un disait, mais toi qui es croyant, veux-tu ajouter Jésus-Christ à ta vie ou veux-tu soumettre ta vie à Jésus-Christ? Aujourd'hui, ce message peut paraître peut-être même péjoratif, mal pris, parce que se soumettre à quelqu'un, aujourd'hui, ça fait écho sur quelque chose de soumission, et c'est pas très bien. Mais se soumettre à Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est lui dire « J'ai confiance en toi, Seigneur. Je te donne ma vie, tout mon être entier. Je veux sortir de ma zone de confort, toutes ces choses recommandées. Je veux les faire par amour pour toi, parce que j'ai réalisé l'œuvre de la croix. Et je veux encore plus aujourd'hui le réaliser. » Vous savez, quand j'ai dit Paul, il était une pointure dans la Torah. On peut connaître la parole de Dieu, on peut connaître intellectuellement. On a des théologiens libéraux, ils sont très très forts, peut-être même plus forts que moi, enfin même très certainement plus forts que moi. Mais peut-être que ce qui manque, c'est cette réalisation de l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait, qui fait que du coup, ce qui est dans la tête intellectuelle et dans le cœur et dans notre être entier, qu'on le transparaisse. Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. J'aimerais qu'on prie pour que Dieu nous fasse réaliser l'œuvre de la croix. On entend parler, nous qui avons peut-être marché 1 an, 2 ans, 3 ans, 10, 15 ans avec Dieu, on se dit, mais la croix, je connais. Mais peut-être que si encore je suis limité sur certains aspects de ma vie, c'est peut-être que je n'ai pas réalisé à quel point la croix doit être centrale dans ma vie. À quel point les fondements ne sont peut-être pas si solides que ça. Mais nous sommes les disciples, comme les 12 disciples de Jésus-Christ, comme les disciples qui étaient au temps de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes les disciples d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit avec nous encore plus. Nous progressons. Alors progressons ensemble lorsque nous nous rassemblons prions, sortons de notre zone de confort. Lorsque nous sommes ensemble, écoutons. Lorsque nous sommes ensemble, parlons les uns avec les autres. Il est marqué que nous sommes les membres les uns les autres. Et parfois, dans notre compréhension, à cause du monde actuel, on pense que quand les gens sont différents, ils sont contre nous. Et on voit plutôt la différence comme, je dirais, un motif, une raison de séparation et de rivalité. Mais Jésus, quand il a pris ses 12, et puis quand il a pris auprès de lui tous ses disciples, et quand il a choisi les différentes personnes, et quand il parle des ministères dons, il ne parle pas de rivalité, mais il parle de complémentarité. On ne peut pas tout faire. C'est pour ça que nous sommes tous différents, en termes de caractère, en termes de compréhension, en termes, je dirais, de sensibilité. Nous avons des évangélistes, nous avons des enseignants, nous avons des prophètes. Mais tous ne peuvent pas tout faire. Mais nous sommes tous là. Et nous nous enrichissons. Le but, l'édification de l'Église. Le salut des âmes. Que nous soyons plus forts. Qu'aujourd'hui, nous soyons plus forts qu'hier. Et que nous soyons moins forts que demain. Que nous connaissions encore beaucoup plus Jésus-Christ. Car au temps de la tempête, nous ne chancellerons pas. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Te remercier pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Et comme j'ai dit, je veux te prier. Te prier afin que nous ayons une plus grande révélation de la croix, une plus grande révélation du prix payé. Seigneur Jésus, nous l'avons chanté. Tu nous appelles par nos noms, Seigneur mon Dieu. Tu nous appelles à la croix, Seigneur Jésus. Nous l'avons chanté, Seigneur mon Dieu. À toi nos cœurs, à toi nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous marchons à ta suite, Seigneur Jésus, et nous ne voulons pas être ébranlés. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, à mieux te connaître. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, à ouvrir nos yeux afin que nous comprenions, Seigneur mon Dieu, les mystères de ta parole, que nous puissions connaître ta personne, qui tu es, les plans que tu as faits pour nous, afin que nous nous engagions. Seigneur mon Dieu, ce que tu nous demandes peut-être est sur le plan humain, sur le plan du raisonnement de ce monde actuel, impossible, Seigneur Jésus. Mais nous croyons, Seigneur mon Dieu, en toi et nous voulons avoir une foi encore plus grande, jour après jour, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être des hommes faits, des femmes faites, Seigneur mon Dieu, des serviteurs et des servantes utiles, sachant discerner quelle est ta volonté. Seigneur mon Dieu, nous voulons faire non pas le surplus qui est inutile, mais ce qui est nécessaire et ce que tu nous demandes de faire, Seigneur mon Dieu, c'est déjà beaucoup. Seigneur mon Dieu, aide-nous. Aide-nous à mieux te comprendre. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à mieux réaliser ton amour pour nous. Aide-nous à réaliser toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, parce que nous ne voulons pas lâcher. Tu as des plans parfaits pour nous, un avenir, de l'espérance, Seigneur Jésus. Toutes ces promesses, nous voulons nous les saisir dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, comme les disciples qui ont persévéré à l'époque, Seigneur Jésus, eux qui ont accepté tous ces challenges, tous ces défis, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, tenir bon. Seigneur mon Dieu, viens nous équiper, viens nous aider, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Amen.